Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes samedi 6 novembre 2021. Vous suivez la radio Nzamba Agathe Kakawe. Et c'est l'heure du journal dont voici d'abord les titres. Libération de 14 membres du CNL de la commune Chombo en province Karoussi après paiement de grosses amendes, mais sans quittance. Il s'agit ni plus ni moins d'un vol organisé contre les membres des partis de l'opposition comme le fustige l'organisation ACAT Burundi. Et puis, cette bonne nouvelle, au camp de Nouta en Tanzanie, avec la libération d'une cinquantaine de réfugiés, ils avaient été arrêtés, accusés de mener des activités d'élevage au sein du camp. La stabilisation permanente, où en est-on un mois après sa mise en application? C'est à cette question que le magazine Au cœur de la société de ce samedi va répondre. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Démarrons ce journal par cette brève. Un magistrat pris en flagrant délit de corruption. Il s'agit de Damien Dabakenga du parquet de Mwaro. Il a été surpris ce vendredi au moment où il était en train d'empocher la dernière tranche d'une somme de 100 000 francs. La victime, qui est partie prenante dans une affaire en cours dans ce parquet, a eu le courage de piéger ce magistrat afin de dénoncer cette corruption. Damien Gendavanga est pour le moment en garde à vue au commissariat général de police judiciaire à Bujumbura en attendant la fin de l'enquête selon notre source. Libération de 14 membres du parti CNL de la commune Chombo en province Karoussi. Ils venaient de passer presque une semaine en garde à vue au commissariat de police à Karoussi. Ils ont été libérés après paiement d'amende, mais ils n'ont pas reçu de quittance. Ils étaient accusés de participation aux bandes armées, des accusations que les proches qualifiaient de non fondées. Plus de détails avec Joséphine Jones-Mundimana.
Les 14 personnes ont été tous libérées. 9 premiers membres du parti CNL ont été libérés mercredi de la semaine qui touche à sa fin et les autres ont été relâchés sous paiement d'une amende de 100 000 chacun. Elles avaient été arrêtées quand elles étaient dans la permanence du parti CNL. Les administratifs les accusaient de tenir une réunion illégale. Ils étaient 11 hommes et 3 femmes. Ils se sont défendus en disant que les réunions qui ont eu lieu dans les permanences ne doivent pas nécessairement avoir l'autorisation des administratifs ou en être informés.
Abo nubundi bemeza ko amategeko abibarekurira gukorera inama mu ngoro y'umukambwe ataruhusha basatse kanatabamenyeshe.
Ils ont dit que la loi leur autorise de se rencontrer dans la permanence sans pour autant demander la permission de la tenue d'une réunion. Et il a répliqué que les rencontres autorisées sont ceux des comités à différents échelons, comme le niveau collinaire, le niveau de la zone et celui de la commune, mais pas pour tous les membres.
Après l'audition par un officier de police judiciaire, il a fait la requalification de l'infraction, les accusant de faire la rébellion. Des accusations que les accusés rejettent en bloc. Le lendemain, c'est-à-dire mercredi, 9 des prévenus ont été libérés. Les autres n'ont pas été libérés qu'après le paiement d'une amende de 100 000 francs burundais chacun.
Mercredi, ils ont libéré 9 parmi eux. Quand ils sont allés demander pourquoi les uns ont été libérés et non tous, la réponse a été que des enquêtes continuent pour ces derniers. Ils ont été à leur tour relâchés après avoir payé une amende de 100 000 francs burundais pour chacun.
La radio Nzamba a tenté de joindre par téléphone Pierre Nizigimana, administrateur de la commune, mais sans succès.
De son côté, l'ACAT Burundi dénonce un vol organisé contre les membres des partis de l'opposition. Cette organisation de défense des droits de l'homme explique que libérer quelqu'un sous paiement et sans quittance est une pure violation de la loi. Jean-Claude Nivurumo aussi est chargé du département juridique au sein d'ACAT Burundi.
Réellement, ce que nous constatons à l'ACAT Burundi, c'est vraiment un banditisme pur et simple. Les victimes sont accusées à tort et à travers des infractions imaginaires, avec pour unique objectif de les rançonner. On ne dirait pas qu'il s'agit d'une caution, parce que la caution est bien organisée par le code de procédure pénale. Donc, ce n'est pas la voie légale qui a été empruntée du moment que c'est pas l'autorité habilitée qui leur a demandé à payer de l'argent et que même il n'y a pas de reçu de réception du montant versé. Aujourd'hui, c'est vrai que ce sont les membres des partis de l'opposition qui sont visés, mais sachez bien que le voleur n'a pas d'amis. Tout le monde est victime potentielle. Il faut donc se lever comme un seul homme pour arrêter cette forme de banditisme qui se cache derrière cette manipulation politique.
Autre lieu, autre libération. Il s'agit d'une cinquantaine de réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie qui ont retrouvé la liberté hier vendredi. Ils avaient été arrêtés et écroués mercredi dernier pour avoir enfreint l'interdiction d'élever des animaux domestiques à l'intérieur du camp. Malgré cette libération, les réfugiés continuent de réclamer la suppression de toutes les mesures leur interdisant d'exercer des activités génératrices de revenus dans ce camp. Béni Axelakana pour les détails.
Nous sommes heureux de les libérations. Nous avons accueilli...
Des mots qui expriment la satisfaction chez ce réfugié après la libération de ses compatriotes qui venaient de passer 4 jours sous les verrous. La joie est toutefois mitigée parce que la décision d'interdire l'élevage des animaux domestiques et d'autres activités génératrices de revenus dans ce camp est toujours en vigueur.
Ils ont été libérés cet après-midi, mais leur carte d'enregistrement du affaire reste dans les mains de la police. Les animaux, on ne sait pas où ils sont. On dit que les responsables de la prison de Mélissidon sont venus les récupérer. On est quand même obligé de ne pas élever le bétail. Quand même, ils sont libérés. On ne sait pas comment ils vont continuer à vivre. Du fait que les 15 kilos qu'on nous donne dans 42 jours ne suffisent pas pour survivre durant cette période.
Les réfugiés sollicitent l'intervention du HCR pour que cessent les mesures qui, selon eux, visent à les persécuter.
C'est une façon de nous rapatrier par force. Nous demandons au HCR de rappeler à la Tanzanie de respecter les accords signés en rapport avec la protection des réfugiés.
À ce sujet, la rédaction de la radio Inzamba n'a pu joindre par téléphone ni les responsables du camp de Nduta ni ceux du HCR en Tanzanie. A préciser que le camp de réfugiés de Nduta compte actuellement plus de 65 000 réfugiés burundais.
Inzamba.
Pour la suite de cette édition dans le magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous observons l'état des lieux de la mise en vigueur de la loi sur l'élevage en stabulation permanente un mois après. Au cœur de la société vous est présenté par Prosper Zissavila.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idwiya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Depuis le 4 octobre 2021, la loi portant sur la stabulation permanente et l'interdiction de divagation des animaux domestiques et de la basse-cour est en vigueur. Aucun animal domestique n'est plus autorisé à brouter ou à errer hors de son abri. Un mois après, quel est l'état des lieux? Les éleveurs s'y seraient-ils suffisamment préparés? La loi en soi serait-elle au complet? Toutes ces questions trouveront des réponses dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 6 novembre 2021. À la présentation, Prosper Nzissavila, bienvenue. Selon le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, la mise en application de la stabulation permanente permet l'amélioration de la santé animale en vue d'une grande production en viande et en fumier organique. Elle a également pour objectif de prévenir la contamination des maladies entre le bétail, des conflits qui opposent souvent les éleveurs et les agriculteurs, ainsi que l'érosion du sol. Mais, malgré tout, certains éleveurs contactés dans les provinces de Burundi, Ngozi et Rumonge ne cachent pas leur mécontentement concernant la mise en application de la loi sur la stabulation permanente. Ils font savoir qu'il leur est impossible de trouver le fourrage. Suivez-les. Il s'entretenait avec Émile Nibasumba de la radio publique africaine.
Nous fournissons d'énormes efforts pour l'herbe que nous avons plantée, mais il faut attendre encore au moins un mois pour que l'herbe puisse croître. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous envahissons les domaines de l'État qui nous sont interdits. Nous sommes vraiment épuisés. Les vaches ont faim. Elles ne produisent plus assez de lait. Elles beuglent tout le temps et ça nous chagrine.
Nous avons de basses collines et nous continuons à faire paître nos bétails comme à l'accoutumée. Mais sur les collines voisines, la plupart des éleveurs ont vendu leur vaches par manque d'espace suffisant. Il y en a même qui n'ont pas été capables de clôturer leurs terres et ont décidé de vendre leurs vaches.
Nous nous sommes préparés depuis plus d'un mois, mais nous avons épuisé toute l'herbe fourragère que nous avions plantée. Aujourd'hui, même les vaches n'en produisent plus assez de lait.
Ici à Rumonge, on achetait 3 tas d'herbes qui se transportaient sur un vélo à 6 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est de 12 à 15 000. Même ceux qui pratiquaient l'élevage bovin moderne ont eu des difficultés pour trouver de l'herbe fourragère parce qu'elle est devenue chère. La main-d'œuvre pour chercher l'herbe était de 35 à 40 000 francs, mais aujourd'hui, ceux qui font le travail de transporter l'herbe obtiennent une rémunération de 60 ou 70 000 francs par mois. Pour dire que prochainement, le citoyen ordinaire ne sera pas capable de pratiquer l'élevage des vaches.
La pratique de la stabilisation permanente a eu également d'autres conséquences, dont la hausse du prix du litre de lait dans les provinces de Bujumbura et Rumonge à raison de 200 francs burundais. Tandis qu'à Bouanza, plusieurs familles ont commencé déjà à vendre leurs vaches et les ruminants à un prix dérisoire. Toutes ces conséquences découlent de l'absence d'autres mesures accompagnatrices, selon Nibiz Jean Bosco, docteur vétérinaire. Il parle entre autres le manque d'encadrement des éleveurs.
La loi est là, elle est en vigueur maintenant. Qu'est-ce que les éleveurs peuvent faire? C'est de pouvoir se mettre en association, en groupement, en coopérative, comme on peut le dire, et faire un élevage ensemble, en commun, mais bien sûr, avec un nombre bien réduit de cheptels. Deuxièmement, essayer de cultiver des cultures fragiles sur des collines, ceux qui ont des terrains, faire des haies intrusives chez eux dans les propriétés, ceux qui n'ont pas de vaches. C'est de faire la même chose avec les voisins en plantant des cultures fragiles chez eux et comme ça, eux peuvent les acheter ça. Je sais bien que c'est une bataille. Ou celui qui a beaucoup de vaches peuvent les vendre et l'argent qui provient de ces animaux-là, ils peuvent acheter une ou deux vaches de race améliorée qui peuvent faire la stabilisation chez lui et après commencer à cultiver des cultures fragiles pour pouvoir arriver à alimenter son bétail.
Ce que je voulais demander au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la mesure a été prise. Les éleveurs ont accepté cela parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Mais je voulais recommander à ce que ce soit un programme de sensibilisation. D'abord, en commençant par les techniciens dans les communes afin qu'ils puissent faire des descentes sur le terrain et de parler avec les éleveurs, de pouvoir les expliquer exactement les avantages de ce programme. En plus de ça, il faut que tous les techniciens et les aides infirmières qui travaillent dans les communes aient une formation continue pour qu'ils puissent être à la page, quoi. Il faut réinstaurer aussi le programme de l'insémination artificielle, renforcer les services vétérinaires. Sinon, le programme en question ne va pas réussir. Et pour cela, je voudrais encourager les éleveurs de ne pas croiser les bras, mais plutôt qu'ils fassent le moins possible pour qu'ils puissent faire un élevage moderne.
Dans un entretien qu'il a accordé au journal Iwachu, professeur Patrice Ndimanya, de l'Université du Burundi, indique que l'élevage au Burundi rapporte environ 440 milliards de francs burundais par an, soit 25% de PIB agricole. Et c'est ici que nous mettons un point final à notre mini-magazine au cœur de la société. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et comme tous les samedis, nous terminons cette édition par la revue de presse hebdomadaire. Elle vous est livrée par Georges Nimenya.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue, chers auditrices et auditeurs, à cette revue de presse. Le journal La Ligne SOS Média écrit sur un groupe de jeunes Imbonerakure qui tue et enterre une personne dans le cimetière de Gahongere, c'est dans la commune et province Bubanza. Le crime s'est passé à 5 km de la ville de Bubanza samedi de la semaine passée. Selon le journal, un témoin qui a assisté à cet assassinat dit avoir identifié un des auteurs de ce crime. Il s'agit de Dieudonné Hakiza, un Imbonerakure. Après le forfait, ils ont creusé un trou dans le cimetière de Gahongere et ont enterré la victime. Sans se rendre compte qu'un crime a été commis, le chef de la zone Mitakataka a été en appel à ceux qui ont enterré le corps à cet endroit de le déplacer car ils ont brisé au passage un tuyau de la régie des eaux. Les auteurs du crime ont attendu qu'il fasse nuit pour se rendre sur les lieux. Ils ont déplacé le corps et l'ont enterré sur un autre endroit au même cimetière. Burundi Media, la situation reste encore préoccupante. Titre le journal Iwachu. Parlant de la journée internationale des crimes commis contre les journalistes, le journal Iwachu dit que cette journée, le 2 novembre, est arrivée au moment où l'impunité revient petit à petit au galop, malgré la volonté du chef de l'État burundais d'assainir les relations avec les médias. Arrestation, passage au tabac le 24 septembre de cette année, de M. Richard Nyonguru, journaliste à la RCF Bonesha FM, est un exemple parlant. Il a été arrêté à Kamenge en plein reportage après une attaque à la grenade perpétrée chez un officier de l'armée. Il sera tabassé. Les journalistes d'Iwatch, partis au commissariat de la police pour s'enquérir de la situation de leurs confrères de Bonesha FM, ont passé une demi-heure sous interrogatoire pour avoir interviewé leurs confrères. Ils ont été contraints d'effacer l'interview faite avec le journaliste reporter de Bonesha, qui lui aussi sera forcé d'effacer tous les sons prises, et tout sera sans explication. Pour Arnaud Forger, responsable de la division Afrique à l'ONG Reporters sans frontières, c'est une preuve qui montre la suffisance que malgré les quelques avancées enregistrées à une année, la situation reste encore préoccupante. Page développement. L'exploitation du nickel n'est pas pour demain, écrit le journal Burundi Echo. Le Conseil des ministres a approuvé lors de sa dernière réunion la révocation du contrat d'exploitation du nickel dans le périmètre de Musongati. Ce gisement a une teneur de 180 millions de tonnes, environ 6% des réserves mondiales de ce métal très convoité. Depuis des décennies, l'exploitation des ressources à base du nickel constitue un objectif prioritaire pour le gouvernement qui veut en faire une grande mine du pays dont la durée de vie dépasse 45 ans. Le journal Burundi Echo se pose la question de savoir pourquoi le projet tarde à se concrétiser alors que la découverte du nickel au Burundi date des années 1970. À cette question, quelques éléments de réponse. L'enclavement avec les ressources énergétiques limitées. Le pays n'a pas accès direct à l'océan. Les cargaisons sont acheminées par voie routière jusqu'à Bujumbura, c'est une distance de 1500 km, ce qui augmente considérablement les coûts de production pour les entreprises. L'exploitation du nickel s'avère coûteuse. Le plan de développement pour le Burundi, élaboré par la Banque africaine de développement BAD en 2009, montre que l'extraction annuelle du nickel est estimée à 4 millions de tonnes de minerais, d'où il faut diligenter les travaux de développement du site minier et de la réfection de la route qui mène vers Kigoma. La volatilité des cours plombe les investissements. Le nickel est une source destinée à la fabrication d'acier inoxydable. Le coût de ce métal connaît des variations très volatiles. Par exemple, en 2007, la tonne coûtait 54 100 $. En 2008, une année après, le prix a chuté jusqu'à 9 050 $ la tonne. Voilà, madame, messieurs, c'est ici que Boukro s'était revu de place. Georges Nimenya vous souhaite de passer les meilleurs moments là où vous êtes. Au revoir et bon week-end.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est ici que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakaoué, pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.